Alors, 7h43 à Paris, tout de suite le journal des sports. Avec vous, Victor Missistrano, bonjour.
Bonjour, Andréane. Bonjour
à la une, le football, Victor, la dernière séquence internationale de la saison a débuté. C'est en France que se réunit la sélection congolaise.
Les Léopards de RDC effectuent un stage à Orléans, à 150 km au sud de Paris. Au programme, deux matchs amicaux, demain contre le Mali et dimanche face à Madagascar. L'idéal, pour s'ajuster à 6 mois de la Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi pour améliorer la place de la sélection dans la hiérarchie mondiale. À Kinshasa, les précisions d'Olga Massangou.
L'un des objectifs de ce stage pour Sébastien De Sabre, c'est d'améliorer la position de la RDC au classement FIFA.
On avait fait le choix de jouer contre deux équipes africaines. Une qui était devant nous au classement FIFA, qui sera le Mali, et une autre qui sera Madagascar. Les équipes qui sont dans les 10 premières, ou dans les 15, ou dans les 20 premières au classement FIFA, choisissent des équipes qui sont également assez élevées au niveau du classement FIFA. Donc premier objectif, c'est déjà d'augmenter nos résultats pour augmenter notre classement FIFA.
Le sélectionneur des Léopards compte également profiter de ce rassemblement pour voir certains joueurs, parmi lesquels Pouloulou, qui va porter pour la première fois le maillot des Léopards.
Travail, et notamment sur ce stage-là, pour encore voir certains joueurs, encore bonifier nos relations entre les joueurs pour essayer de s'améliorer, être prêt sur les dates du mois de septembre.
Si défensivement, l'équipe de la RDC est solide, en attaque, Sébastien De Sabre attend le déclic pour Simon Banza, Samuel Essende ou encore Cédric Wakambu en manque de réussite devant le but.
Si on prend les attaquants, celui je pense qui a marqué le plus souvent, c'est Fiston Mayele ou Meshack Eliak. Et on attend tous, à un moment donné, cet attaquant qui va prendre le lead en attaque.
Un stage important pour De Sabre et son staff, dont les enseignements serviront pour les prochaines journées des éliminatoires à la Coupe du Monde. Olga Massangou, Kinshasa, RFI.
RDC Mali, c'est demain à 18h, temps universel.
Futur adversaire des Congolais lors de ces éliminatoires du Mondial, le Sénégal s'apprête à affronter deux sélections européennes.
Premier match amical vendredi à Dublin contre l'Irlande, puis 4 jours plus tard à Nottingham face à l'Angleterre. L'encadrement des Lions de la Teranga a donc fait un choix différent de celui des Léopards. Le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw s'exprime sur ce choix des adversaires.
Ces deux matchs, c'est face à des adversaires très disciplinés et très forts tactiquement. On sait que notre match contre la RDC, ça demande beaucoup ça. Donc on doit se juger sur ce genre de match et pour pouvoir préparer nos matchs contre RDC et contre Soudan. Les matchs amicaux servent à essayer, corriger et aussi se préparer pour la suite. Donc c'est sûr, on va essayer de mettre en place des choses et si on va corriger les choses qu'on va voir durant ces matchs qui vont nous servir parce qu'on sait qu'on aura des adversaires de grand calibre et il faut se préparer à ça. Et aussi nous, en tant que coach, ça nous permettra aussi de se mesurer.
Propos recueillis par Wahani Johnson Sambou. Enfin, cyclisme, c'est le grand départ aujourd'hui du Tour du Cameroun. 66 coureurs sur la ligne de départ et parmi eux un favori, le vainqueur sortant Clovis Kamsong, au programme de la première des 10 étapes Andréane, une boucle de 128 km autour de Marois.
Merci Victor. Victor Missistrano, vous revenez tout à l'heure à 8h13.
RFI, toute l'actualité, Andréane Mélard.
Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium doublés ce mercredi, 50%, décidé donc par l'administration américaine, une mesure qui va frapper tout particulièrement le Canada, principal fournisseur d'acier et d'aluminium des États-Unis. Le président américain a justifié cette décision par la volonté de s'assurer que les importations, je cite, ne mettront pas en péril la sécurité nationale. L'acier et l'aluminium étaient les premiers secteurs touchés par les droits de douane américains avec de premières surtaxes. Taxe 25% décidée en mars. La guerre commerciale lancée par les États-Unis, ça va être l'un des gros dossiers sur la table du nouveau président sud-coréen. Lee Jae-myung a été investi ce matin et dans un tout premier discours, il a notamment averti que la montée du protectionnisme constituait une menace existentielle pour son pays, dont l'économie est fortement axée sur les exportations. Il a aussi promis Lee Jae-myung de panser les plaies de la Corée du Sud après de longues semaines de crise politique et de tendre la main à la Corée du Nord. La Corée du Nord, justement, où se trouve le secrétaire du Conseil de sécurité russe, Sergueï Shoigu, doit s'entretenir avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et discuter notamment du partenariat entre leurs deux pays. C'est un scénario qui se répète dans la bande de Gaza. Hier encore, 27 personnes sont mortes après que l'armée israélienne a ouvert le feu près d'un centre d'aide humanitaire. Ça s'est passé dans le sud de l'enclave palestinienne. Les entreprises françaises sont trop frileuses en Afrique. Elles doivent se réengager sur le continent. Les mots d'Étienne Giros, le patron des opérateurs français en Afrique, qui salue leur résilience. Ils sont près de 5000 à travailler en Afrique et à employer au moins 700 000 personnes. Mais il les invite à plus d'audace, Étienne Giros. Il a travaillé 23 ans dans le groupe Bolloré et depuis 11 ans, il préside l'association professionnelle qui regroupe les entreprises françaises opérantes en Afrique. Il vient de publier le livre 54 nuances d'Afrique aux éditions Télémaque et il est notre invité ce matin. Il répond à Christophe Babouvier.
Étienne Giros, bonjour.
Bonjour.
Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon ne sont pas d'accord sur tout, comme chacun le sait, mais ils sont d'accord pour dire que les entreprises françaises en Afrique profitent trop d'une situation de rente et qu'elles n'innovent pas assez. Alors pourquoi ça vous met en colère ?
Mais ça m'agace parce que ça ne correspond pas à la réalité. Qu'est-ce que c'est qu'une rente ? Une rente, c'est bénéficier d'une situation de monopole qu'on a créée soi-même pour obtenir des tarifs élevés et ne pas développer des progrès techniques, etc. Les grands groupes français et les entreprises de taille moyenne qui sont en France peut-être ont eu des situations de rente il y a 50 ou 60 ans. Maintenant, rien n'est plus faux que cela. Les entreprises françaises sont soumises à la concurrence. Je prends un exemple d'un groupe que je connais bien. L'ancien groupe Bolloré, qui maintenant s'appelle en Afrique AGL, est en concurrence avec des opérateurs chinois, dubaïotes et d'autres régions du monde sur les ports. Le groupe Orange, qui est très important en Afrique dans la téléphonie, est en concurrence avec 7 ou 8 opérateurs mondiaux. Et s'il ne performe pas en qualité et s'il n'a pas les bons prix, je peux vous dire qu'il est battu. Et donc, c'est une erreur de croire que l'on est en position de monopole.
Mais franchement, Étienne Giros, est-ce que la compagnie Air France ne profite pas de sa position de monopole sur certaines lignes pour imposer des billets très très chers ?
Ça, j'avoue que ça peut arriver et que les billets sont chers. Et c'est une question souvent de permis et d'autorisation de slots qui doit être donné par les autorités africaines. Et on appelle de nos voeux l'ouverture de ces marchés car la communication entre les pays africains est très importante et effectivement, c'est trop cher.
Alors vous dites que les entreprises françaises restent très présentes en Afrique, elles sont plus de 5000, elles emploient 700 000 Africains pour un chiffre d'affaires
100 milliards d'euros, ce qui est beaucoup plus que tout le volume d'affaires que nous faisons avec les États-Unis ou la Chine.
Mais vous dites aussi que depuis le Covid de 2020, vous voyez des chefs d'entreprise français qui préfèrent renoncer à leurs projets en Afrique. Pourquoi ?
Renoncer ou ralentir ? Parce qu'ils sont confrontés à un ressenti du risque africain qui est élevé. Le départ de la France, dans des conditions compliquées, on va dire ça comme ça, du Sahel, les affaires de conformité avec le risque réputationnel ou le risque d'être traité devant les tribunaux. Les questions de la corruption qui perdurent et la petitesse des marchés fait que les entreprises françaises y réfléchissent à deux fois avant d'aller sur place. Eh bien, notre travail, c'est de faire baisser le ressenti du risque en disant non, l'Afrique n'est pas plus risquée qu'ailleurs. Et deuxièmement, en disant petit marché deviendra grand. Une classe moyenne en Afrique arrive, la croissance démographique est là et ce continent est ouvert sur le monde.
Concrètement, Étienne Giros, vous racontez dans votre livre l'histoire d'une entreprise française implantée en Afrique qui réclamait son argent. Le ministre des Finances de l'État concerné lui a répondu « Je vous paye si vous me donnez 10% en dessous de table ». C'est ce qu'on appelle du chantage. Comment cette entreprise française s'en est tirée ?
Eh bien, elle s'en est tirée parce que c'était un grand groupe qui avait les reins solides. Elle a attendu, elle a discuté avec les bailleurs de fonds, elle a rendu public, non pas dans la presse, mais à certaines personnalités, cet état de fait. Et finalement, au bout d'un an, un an et demi, ça a été réglé. Mais une entreprise de taille moyenne qui ne peut pas tenir un an et demi, et qui a les emplois en cause, va quelquefois soit être obligé de partir, soit être obligé de céder. Et donc, tout ça pour dire que, je sais que peut-être certains ne vont pas être d'accord avec ce que je vais dire, et je pense que les entreprises dans les affaires de corruption, elles sont davantage victimes qu'opératrices.
Alors, un groupe français bien connu, le groupe Bolloré, pour lequel vous avez travaillé, est visé par la justice française qui le soupçonne d'avoir acquis frauduleusement la gestion des ports de Lomé et de Conakry. Est-ce que le groupe est plutôt victime ou plutôt coupable ?
Ça, moi, je ne vais pas prendre parti, vous imaginez, sur ce dossier dont la justice n'a pas encore rendu ses conclusions, donc je ne peux pas répondre à votre question, franchement.
Et cette affaire judiciaire, est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle Vincent Bolloré a vendu toutes ses activités africaines en 2022 à l'armateur italo-suisse MSC ?
Non, je ne suis pas mandaté pour expliquer les motivations du groupe pour son départ d'Afrique dans les domaines du transport. Moi, je ne crois pas que c'est ça. Moi, je crois que c'est simplement un arbitrage d'actifs. Et ce groupe, qui est un groupe puissant, qui évolue beaucoup, a décidé d'orienter sa stratégie d'une manière différente et de quitter les transports, puisqu'il a vendu certes ses activités de transport à MSC en Afrique, mais il a aussi vendu ses activités de transport monde à SMA-CGM. Donc ça n'est pas l'Afrique qui était visée, je pense que c'était simplement une réorientation stratégique. D'ailleurs, ce groupe conserve sa présence en Afrique dans le domaine des médias, puisque Canal+, qui appartient à ce groupe, est en cours d'acquisition du grand opérateur de télévision payante sud-africain qui s'appelle MultiChoice, énorme acquisition, sur toute l'Afrique australe. Et deuxièmement, il déploie la fibre dans une dizaine de pays, donc je pense que ça n'est pas un signe de désintérêt de l'Afrique, c'est plutôt une orientation stratégique.
Étienne Giros, merci.
Avec Christophe Boisbouvier, Étienne Giros, auteur du livre 54 nuances d'Afrique, publié chez Télémac. RFI Matin, votre chronique matières premières et les répercussions sur le marché du cobalt de la décision de février dernier de la RDC de ne plus exporter son minerai pendant 4 mois. Le pays produit les 2/3 du cobalt mondial. L'annonce a donc fait l'effet d'un petit séisme dans le secteur. Bonjour Marie-Pierre Olfan.
Bonjour.
La filière reste suspendue donc à ce que va décider la République démocratique du Congo d'ici la fin du mois de juin.
Effectivement, car la décision de Kinshasa a permis de faire remonter les prix, c'était son but, mais elle a aussi asséché le marché. Début 2025, les stocks disponibles à l'extérieur du pays étaient capables de répondre à 4 mois de consommation. Les usines de raffinage qui souffraient des prix bas manquent maintenant d'approvisionnement en matières premières. Et pour vous dire à quel point le marché a été bousculé, l'Institut du Cobalt qui regroupe les industriels de la filière détaille dans un rapport publié ces derniers jours 4 scénarios en fonction de ce que Kinshasa pourrait décider.
Et chaque décision aura un impact spécifique sur l'équilibre du marché.
Oui, exactement. Les volumes qui sortiront de RDC dans les prochains mois seront déterminants pour savoir si le marché restera excédentaire. Selon les hypothèses, le trop-plein de cobalt pourrait durer jusqu'en 2030 au moins, ou au contraire laisser place à un déficit dès 2027. Et qui dit déficit, dit en général remontée des cours. Le positionnement de la République démocratique du Congo aura aussi un impact sur la demande. Les difficultés d'approvisionnement sur le long terme pourraient détruire la demande, comme on dit dans le jargon, et conforter les technologies qui se passent de cobalt.
Mais pour l'instant, les besoins en cobalt ne cessent d'augmenter.
Oui, selon des chiffres qui viennent d'être publiés, il y a quelques jours, la demande n'a jamais été si forte qu'en 2024 avec une consommation de plus de 200 000 tonnes et elle pourrait doubler d'ici la fin de la décennie. Le secteur le plus gourmand est celui de l'automobile. À l'horizon 2030, près de 60% du cobalt pourrait être absorbé par la fabrication de batteries. Les prévisions restent difficiles cependant car elles sont mises à mal par la situation économique mondiale et par la politique de l'administration Trump, moins favorable à la généralisation des véhicules électriques.
Merci Marie-Pierre Olfan. Comme chaque jour, notre grand reportage, 20 minutes à écouter en direct ou en podcast sur RFI, et un extrait à retrouver chaque matin. Aujourd'hui, on parle de la Thaïlande à la frontière de la Malaisie. Là-bas, les provinces thaïlandaises de Yala, Pattani et Narathiwat sont en proie à un conflit entre l'État central de Bangkok et un groupe armé séparatiste musulman. Bilan, plus de 7700 morts depuis plus de 20 ans. En 2004, le massacre resté impuni de manifestants musulmans d'origine malaise a laissé des traces qui continuent de hanter cette région. En témoigne la résurgence des violences meurtrières depuis le début de l'année. Grand Sud thaïlandais, l'insurrection oubliée. C'est un grand reportage de Valentin Sébron sur RFI et tout de suite un extrait.
Les funérailles d'un homme de 75 ans et d'une enfant de 9 ans ont été organisées au temple de Kok Mamwang à Takbai dans la province de Narathiwat. Selon la mère de la fillette, seule survivante, 6 assaillants sont arrivés à bord de 3 motos et ont ouvert le feu sur 3 maisons.
Ce récent reportage télé rappelle que les habitants des 3 provinces de Yala, Pattani et Narathiwat au sud du royaume vivent dans la violence permanente. Véhicules piégés, attentats, fusillades, assassinats ciblés. Depuis le tournant de 2004, ce conflit peu médiatisé a fait plus de 7700 morts et près de 15 000 blessés, principalement des civils. Rien qu'en avril, recense l'ONG Deep South Watch, 57 incidents violents ont fait 68 victimes, musulmanes et bouddhistes. Dans un café de Yala, Nous rencontrons une femme au foulard pastel dont la silhouette arrondie présage l'arrivée prochaine d'un nouvel être.
My name is Azura Cheuma.
Je m'appelle Azura Cheuma. J'ai 35 ans, je suis en ce moment mère au foyer, j'ai une fille et je suis enceinte d'un autre bébé.
Membre de la Fédération des étudiants musulmans de Thaïlande lorsqu'elle étudie à Bangkok, elle observe le basculement qui s'est opéré après le drame de Thaï Bay.
Après ce jour, la vie a complètement changé. Les gens sont devenus tendus. Notre vie est passée sous étroite surveillance. Ici, on se sent étranger dans notre propre pays en termes de culture, religion et en termes d'égalité des chances. Nous sommes confrontés à des préjugés, à des malentendus et à une violence quotidienne. En tant que femme qui vit dans le sud profond, ce n'est pas facile. Je dois être prudente quand je sors. J'en ai marre. Parfois, je perds espoir. Être une mère dans cet environnement me fait vivre dans une peur permanente. J'ai peur que quelque chose arrive à mes enfants. J'ai envie qu'ils grandissent dans un environnement sûr où ils pourront jouer, étudier, sans avoir à entendre résonner le bruit des armes.
Les trois provinces de l'extrême sud de la Thaïlande sont ainsi soumises à une loi martiale et à l'état d'urgence prolongé maintes fois depuis 2004, année où 75 000 soldats, policiers et paramilitaires sont descendus dans la région pour tenter d'endiguer les violences.
Ce grand reportage de Valentin Sébron à écouter en intégralité sur RFI 19h40 temps universel. Et demain aussi à 5h10 heure de Paris, à retrouver également en podcast sur notre site et sur notre application RFI Pure Radio. Vous restez bien avec nous. Dans une minute, le journal de Jeanne Bartoli. Juste après, ce sera le sport sur RFI.
Bonjour, c'est Juan Gomez. En Côte d'Ivoire, la liste électorale définitive est disponible dès aujourd'hui. Nous lançons le débat alors que l'opposition réclame une révision complète du fichier électoral avant la présidentielle du mois d'octobre et la réintégration des personnalités politiques radiées.
Appel sur l'actualité
33 9 693 693 70.
Retrouvez Appel sur l'actualité avec Banque Atlantique à partir de 8h10 TU.
À tout à l'heure sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Cette année, le Festival de la Charité sur Loire a rimé avec la Série Noire. En célébrant les 80 ans de la célèbre collection, à travers plusieurs rencontres autour d'auteurs phares comme Dashiell Hammett ou Hervé Prudhon. Des moments forts à retrouver dans un grand reportage enregistré sur place.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.